Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 13 décembre 2018. Au micro jaune au studio, j'ai Laurent.
Oui, bonjour Delphine.
Donc j'ai un micro jaune aussi, nous sommes raccord ce soir. Et nous sommes partis pour une petite émission où nous parlerons de tout plein de choses. On parlera du groupe Bolloré, du service Ariane, de secret des affaires, un petit peu de grève aussi, parce que ce serait pas mal, de France Télévisions, de nucléaire. Nous reviendrons à la fin de ce Canu Info sur la radio numérique. On en avait parlé il y a quelques temps, on avait cessé d'en parler. Eh ben, la radio numérique est de retour et l'arnaque, l'escroquerie qui va avec. C'est Laurent qui vous parlera de radio numérique. Mais nous avons choisi ce soir de ne pas ouvrir sur ce qui se passe chez nous, mais de ce qui se passe loin. C'est-à-dire que Laurent va commencer avec ce qui se passe du côté d'Israël et de la Palestine.
Oui, parce qu'on n'avait pas d'infos à donner non plus sur ni ce qui se passe à Strasbourg, ni ce qui se passe du côté des gens habillés en jaune, ni de quoi que ce soit qui ne nous intéresse pas toujours d'ailleurs.
On fera peut-être une critique des médias au milieu.
Ah oui, t'as prévu.
Peut-être. Nous verrons bien.
Donc je vous vois sur la situation israélo-palestinienne, faire un petit point. Surtout que depuis dimanche, des événements sont arrivés en Israël et en Palestine occupée. Donc on va commencer par l'info du jour, en ce jeudi 13 décembre. Une attaque en Cisjordanie, donc par deux Palestiniens qui ont tué deux Israéliens. Quelques heures après que les Israéliens aient, eux aussi, tué deux Palestiniens. Donc on peut dire 2-0 à la balle au centre. Si ce n'était pas des morts et des êtres humains, ça nous ferait juste rire. Comme c'est des êtres humains des deux côtés, c'est juste triste de voir que la situation ne s'est pas calmée. Alors, si on suit ce que dit l'armée israélienne, il nous parle bien sûr de terroristes qui auraient attaqué des soldats israéliens et qu'ils ont abattus donc en début d'après-midi. Sur l'attaque du matin, c'était en vengeance quelque part ou en recherche suite à deux attaques donc du week-end dernier. donc du 7 octobre et du 9 octobre de la part de Palestiniens. Donc là, Netanyahou s'était exprimé en disant qu'ils allaient retrouver les coupables. Donc effectivement, depuis la Cisjordanie, puisque c'est en Cisjordanie que ça se passe, la Cisjordanie est à nouveau quadrillée énormément par l'armée israélienne. Et aujourd'hui, donc des actions représailles de la part de l'armée israélienne aussi de la part des Palestiniens. Ce qu'on constate, c'est que la situation est toujours un peu la même, hein, voire beaucoup la même, c'est que les violences se répondent d'un côté et de l'autre, et que rien ne progresse. C'est pas le discours de Netanyahou, qui est un va-t-en-guerre pas possible, qui va faire évoluer les choses. La situation est très compliquée, alors que ça s'était plutôt calmé du côté de la bande de Gaza, où pour l'instant on est dans une sorte de cessez-le-feu, de on se regarde de chaque côté de la barrière. Là, c'est à nouveau très tendu en Cisjordanie, au point que les forces armées et colonialistes israéliennes qui n'ont peur de rien, sont même allés jusqu'à faire une descente dans les locaux du ministère des Finances palestiniens pour chercher les énergumènes, les terroristes comme ils le disent, les résistants comme les qualifient ceux d'en face. Ils ont aussi attaqué, vérifié, contrôlé l'agence officielle palestinienne qui s'appelle Wafa. Donc on sent bien que la Cisjordanie, toujours en très grande partie occupée, ne s'engage pas vraiment vers la paix. On rappelle, hein, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, puisqu'il y a eu aussi une attaque au couteau à Jérusalem-Est, c'est 600 000 colons israéliens qui phagocytent les terres palestiniennes. Mais on se dit, bon, la violence remonte, est-ce que Netanyahou va reculer? Je vous donne les derniers propos de ce dirigeant qui n'a vraiment aucun sens de la paix, mais on le savait déjà. Il a dit dit que les assaillants, puisqu'il appelle ça comme ça là, cherchaient à pousser les Israéliens à partir de Cisjordanie. Ça paraît logique, puisqu'ils occupent ces fameux Israéliens, ils occupent la Cisjordanie. Donc ceux qui habitaient là, ils essaient de les virer, ce qui est un truc un peu réflexe. Il a dit, tant que je serai Premier ministre d'Israël, pas un seul juif ne sera chassé de chez lui, laissant entendre que toute la Cisjordanie appartient aux juifs. C'est un peu ça le concept Netanyahou et de la droite israélienne. Et il continue, non seulement ils ne seront pas chassés de leur maison, mais ils en construiront de nouvelles. Voilà, donc l'objectif de Netanyahou et de ses amis de droite et d'extrême droite, c'est d'occuper entièrement la Cisjordanie et de virer tous ces sales palestiniens. Ils ont déjà bien progressé dans le truc, mais en tout cas, la paix ne semble pas visible du côté d'Israël et de la Palestine. Et pourtant, il y a des actions symboliques qui arrivent de temps en temps. Et aujourd'hui, j'ai appris, j'ai jamais fait gaffe, que la République française, enfin la France, quoi, donne un prix des droits humains à des gens qui militent pour les droits humains ou pour la paix. Et aujourd'hui, ils l'ont donné à deux organisations israélo-palestiniennes, donc une israélienne, qui s'appelle Betselem, dont on parle régulièrement ici, qui est une association israélienne de défense des droits de l'homme et qui s'occupe tout particulièrement des territoires occupés par Israël et donc surtout de la Cisjordanie, et Al-Haq, association elle palestinienne, qui elle aussi milite pour les droits de l'homme et pour la fin de la colonisation du coup. Deux assos qui en fait adhèrent à la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Du coup, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, c'est à saluer la France pour avoir donné le prix à ces associations. Alors, symboliquement, c'est juste symbolique de donner un truc comme ça. Ça, il y a un intérêt quand même important, c'est que ce sont deux assos qui sont attaqués par Israël. Alors, bien évidemment, Al-Haq, qui est une association palestinienne, ils sont attaqués par Israël dès qu'il peut. Mais même Betselem, on en a parlé plusieurs fois, ils sont attaqués régulièrement par leur propre État, leur propre gouvernement, leur propre police, leur propre justice, parce qu'ils font un travail de droits de l'homme, et que même quand on est israélien, faire un travail sur les droits de l'homme, c'est mal vu. Donc voilà, donc c'est un prix symbolique, mais c'est un prix un petit peu important, moi je trouve. Et puis pour terminer sur la situation israélo-palestinienne, je trouvais les propos de Nick Cave complètement dépassés. Nick Cave, c'est un chanteur bien connu, qui qui est en tournée régulièrement en Israël. Brian Eno, un autre chanteur bien connu aussi, l'avait critiqué parce qu'il avait joué la dernière deux fois en Israël. Et Nick Cave a répondu qu'il assumait que pour lui, le boycott, je cite, le boycott culturel d'Israël est lâche et honteux. Bon voilà, il a dit qu'il ne soutenait pas la politique de boycott, tous ces trucs-là. Le problème de Nick Cave, et je ne vais pas justifier le boycott ou pas le boycott, chacun fait ce qu'il veut, c'est que y a ceux qui boycottent et qui montrent leur engagement politique contre la colonisation israélienne, et ceux qui boycottent pas mais qui font un travail politique, parce qu'on peut tout à fait aller jouer en Israël mais faire un travail pendant le concert, de parler de la situation israélo-palestinienne, de faire des choses avec il y a des musiciens français qui ont fait ça il n'y a pas longtemps, plutôt dans l'électro, qui sont allés jouer en Israël et aussi dans une boîte palestinienne et notamment aussi dans le quartier arabe d'Haïfa, donc qui montrent que oui, ils sont pas pour le boycott, par contre ils sont pour améliorer la situation et ils s'engagent politiquement. Là, Nick Cave, il fait que critiquer et il fait rien d'autre. C'est-à-dire qu'il finalement, quelque part, il collabore avec l'État israélien, parce que il condamne, là, il fait un petit mot, il dit « je soutiens pas ce que fait ce gouvernement, mais je ne fais rien ». Donc voilà, j'ai trouvé sa justification ridicule, faible. Alors j'imagine qu'il aurait peut-être aussi pas boycotter l'Afrique du Sud, voire on peut remonter plus loin dans le passé. À un moment, il faut faire des choix politiques et aller jusqu'au bout de ces choix politiques, qu'au moins il se positionne réellement et pas simplement avec une phrase de temps en temps. Moi, je veux bien qu'il fasse des concerts en Israël, mais qu'il affiche au moins son soutien avec les Palestiniens. Ça aurait été un peu plus clair et crédible. Et là, il n'est pas clair et pas crédible du tout, malgré que ce soit un immense artiste.
Alors, il peut aussi tout simplement afficher son soutien pour ceux et celles qui se battent en Israël, qui seront israéliens, pour une démocratie, pour je sais pas, le droit à la culture qui est aujourd'hui remis en question par une ministre qui veut sacraliser la nation israélienne à travers les subventions. Il y a plein de manières de soutenir ceux et celles qui sont en lutte et en résistance aujourd'hui, et pas simplement les Palestiniens, les Palestiniennes.
Mais il l'a pas fait non plus.
Et oui, c'est ça jamais. Il y a plein de manières, hein, voilà, de s'embarquer là-dedans. Juste pour dire, quand tu dis les droits de l'homme, évidemment, tu n'es pas excluant
les droits de l'homme. Non, non. Alors, j'utilise le. Oui, tout à fait. J'ai utilisé le terme officiel. Les droits. On pourrait dire les droits humains.
Nos auditrices ne soient pas choquées.
Voilà, les droits humains. Mais là, j'ai utilisé le terme officiel utilisé par le prix. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé.
Voilà, mais comme tu l'as dit plusieurs fois, je tiens absolument à vous rassurer. Oui. Nous, évidemment, nous sommes pour les droits humains de l'homme
et de la femme.
De la femme.
Enfin, des enfants, de tout.
Nous sommes, vous savez, très ouverts dans cette émission. Juste pour dire que, vous, au contraire, voilà, il ne s'agissait pas d'une erreur de ta part, forcément.
Non, non.
Alors, on va parler de toute autre chose. Vous savez que le groupe Bolloré a des soucis. Et vous savez surtout que Monsieur Bolloré et le groupe Bolloré n'aiment pas qu'on raconte leurs problèmes. Et n'aiment pas qu'on les dénonce.
Oui, ils ont attaqué un peu des médias, déjà. Tu
ouais, dire. Voilà. C'est un, enfin, voilà, des tas de gens. Hein, mais je me suis dit que j'ai rien de plus à en dire que ce que je vais vous en dire, mais c'est juste que c'est pour le faire savoir, hein, vu que groupe Bolloré et Vincent n'aiment pas ça. Alors, peut-être que vous vous souvenez, mais en avril dernier, c'était le 25, Monsieur Bolloré, Vincent, de son petit nom, avait été mis en examen après deux jours de garde à vue.
Pour corruption, c'était pas ça?
Alors, il était dans avec la police anticorruption. Hein, donc, c'est un truc quand même assez fort. Hein, il faut bien vous rendre compte. Vincent Bolloré, homme d'affaires français extrêmement influent, de famille influente, avec un groupe influent, se retrouve en garde à vue pendant deux jours.
C'est que deux jours. C'est pas au Japon, du coup, il reste pas très longtemps.
C'est pas comme Carlos Ghosn. C'est pas comme Carlos. Enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, on a donc appris qu'après cette mise en examen de Vincent, eh ben, c'est la holding hein, qui est à son tour mis en examen. Alors, ça s'est passé hier, donc c'est dans le cadre d'une enquête, hein, je vous rappelle, sur des soupçons de corruption dans le cadre de concessions, d'obtention de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire en Guinée et au Togo. Alors, la petite histoire, hein, juste pour faire très, très rapide, c'est bizarre, c'est que le groupe Bolloré a obtenu des choses juste avant les élections.
Oui, non, mais c'est le hasard.
Le hasard, c'est bien fait.
A priori, la justice pense que c'est pas que le hasard.
Voilà, c'est un petit peu sur tout ça que il y a effectivement ces enquêtes et ces mises en examen. Alors moi, j'ai surtout retenu la position de Monsieur Baratelli, qui est et l'avocat du groupe Bolloré et l'avocat de Monsieur Bolloré, et qui explique que je le cite, c'est la suite logique sans aucun élément nouveau à la procédure depuis le mois d'avril, afin que la société ait accès au dossier. Donc en fait, monsieur Baratelli nous explique, il n'y a rien de grave, tout est normal, il ne se passe rien.
Oh bah tout va bien.
Bah tout va bien.
Enfin, mise en examen quand même.
Donc je tenais quand même à citer monsieur Olivier Baratelli, hein, qui a déclaré donc tout ça à l'AFP. Il ne se passe donc absolument rien au niveau du groupe Bolloré. Monsieur Vincent Bolloré n'a aucun souci, tout va bien. Je tenais à le faire savoir sur cette antenne. Ouais. Et puis alors une affaire absolument anecdotique, mais je sais pas, que je trouve ça quand même assez symptomatique, c'est que certains et certaines ont reçu un petit message qui dit « Madame, monsieur, à la suite d'un piratage informatique, certaines de vos données personnelles confiées au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ont été dérobées. » Alors déjà, vous vous rendez compte que le ministère des Affaires étrangères s'appelle le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, chose que vous aviez absolument zappée. Et oui, donc vous voyez, on en apprend tous les jours. Enfin, l'affaire anecdotique, c'est effectivement que y a des gens qui se sont fait voler leurs petites données personnelles. Alors, il s'agit de noms, de mails, d'adresses, ce genre de choses. On ne parle pas de données sensibles. Il n'y a pas d'histoire de CB ou de choses comme ça, ou du numéro de sécurité sociale qui est TOD, aussi une donnée personnelle sensible, rappelons-le. Alors, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont servis du service Ariane. Le service Ariane, ça vous permet à vous, voyageurs, voyageuses, touristes, de signaler au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que vous êtes dans un pays. Parce qu'il y a des pays où parfois il peut y avoir des petits soucis et on vous conseille de vous signaler. Alors quand je dis des soucis, ça peut être des soucis de dangerosité du pays, de terrorisme, mais aussi de catastrophe. C'est-à-dire un pays où on sait qu'il peut y avoir souvent un typhon qui vous passe sur la tronche, vous pouvez avoir envie de vous signaler. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fois aussi des familles qui vont signaler que des gens vont donc aller dans un pays. Ça peut être des parents, par exemple avec des mineurs ou avec des étudiants. Donc, ces braves gens se sont fait voler leurs petites données personnelles. Et alors, ça craint quand même de savoir qu'aujourd'hui, le service Ariane du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères arrive à se faire pirater.
Oui, c'est pas mal quand même.
C'est quand même assez fort. Hein. Il s'agit quand même... Bon, je vous rappelle qu'avec M. Macron, on est dans la Startup Nation et dans l'ambiance geek hein, aussi. C'est ce qu'on a appris, qu'il fallait aller vers le numérique. A priori, du côté du Quai d'Orsay, les geeks, il n'y en a pas, ou en tout cas, il y a un problème. Ce qui est intéressant aussi, je vais finir là-dessus, c'est les bons conseils du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est qu'il faut se montrer vigilant. Parce que pourquoi on vous a volé vos données, hein, là, toi qui m'écoutes, ben c'est parce que maintenant, le but, c'est peut-être de faire du phishing, c'est-à-dire de s'adresser à toi en tant que ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en te faisant croire que c'est le ministère qui te cause, pour te demander peut-être plus d'informations. Et tu vas t'inquiéter, et bêtement, tu vas répondre et remplir des petits formulaires ou des petites choses qui vont te harponner et te voler tes petites affaires qui, là, seront peut-être, du fou, peut-être sensibles. Et donc là, on te dit au ministère... Sois vigilant, cher ami. Là aussi, il y a du conseil derrière, quand même. Donc, bon, il paraît que la CNIL a été prévenue, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand une entreprise, que ça soit sur des clients ou sur des données de ses salariés, se fait harponner, se fait voler ses données, ben, l'entreprise, votre entreprise à vous, est obligée de prévenir la CNIL, et sinon, ben, c'est de l'amende. Hein, voilà. C'est tout ce que j'avais à en dire.
Voilà, on va revenir sur les conséquences du vote de la loi sur le secret des affaires, un vote au niveau de l'Europe et validation de pas mal de pays, dont la France. Loi portée, défendue par les libéraux au sens large, c'est-à-dire la République en marche chez nous, la droite, l'extrême droite, hein, puisque Marine Le Pen et ses amis ont voté tout ça au niveau de l'Europe. Donc la loi sur le secret des affaires est en application et on a encore un super exemple. Alors je vais revenir sur l'affaire dont pas mal de journaux avaient donné un petit peu des infos, notamment Le Monde pour la France ou Die Zeit pour l'Allemagne. C'était mi-octobre, donc 18 médias européens révélaient à l'issue d'un gros travail d'enquête le scandale de la fraude fiscale de Cum-Ex. Alors en fait c'est un montage financier hein, qui était organisé par des traders qui leur permettait de se faire rembourser par les États européens des impôts sur les dividendes qu'ils n'avaient jamais payés. Donc c'était pas mal, un bon concept, une grosse arnaque, 55 milliards de vols d'argent donc aux États sur 15 ans. Donc le scandale est sorti d'Allemagne, hein, où la fraude s'élève pour l'Allemagne à 7 milliards d'euros. Donc c'est un gros truc, plein de pays sont concernés, la France, le Danemark, la Belgique. Donc voilà, l'affaire est sortie. Surtout grâce à quelqu'un, enfin à quelqu'un, à des journalistes, notamment je disais Die Zeit en Allemagne, et un site qui s'appelle Correctif, qui est un site allemand. Et ben là, le rédacteur en chef du site allemand a été convoqué par la justice. Ah bah oui, c'est bien beau de révéler des trucs, mais t'as pas le droit parce que tu attaques les affaires et tu portes un coup à l'économie. Donc il est poursuivi, pour l'instant, pour avoir violé ce fameux secret des affaires. Il est quand même rédacteur en chef d'un site d'information. Donc c'est pas simplement cette loi, on pensait qu'elle était avant tout faite pour attaquer les lanceurs d'alerte, mais non, elle attaque aussi les journalistes ou les gens affiliés au journalisme. Donc c'est une vraie attaque sur la liberté de la presse. Alors on sait pas ce qui va se passer, pour l'instant il était convoqué par la justice, il subit une enquête de la part du parquet de Hambourg, mais en tout cas c'est très mal parti, c'est pour ça qu'il fallait refuser cette loi sur le secret des affaires. Mais les libéraux de droite et d'extrême droite s'étant alliés, la loi était passée.
C'est à moi ?
Oui.
Alors, je vais parler un petit peu de mouvement, parce qu'effectivement, on ne va pas parler de gilets jaunes, mais nous allons parler de ce qui se passe un petit peu de partout. Alors, vous savez que demain, c'est une journée de mobilisation à l'appel de la CGT.
Oui, c'est relayé par plein d'autres syndicats, Solidaires, la CNT. Voilà.
Oui, ce que dire, c'est qu'il y a des syndicats comme la CNT, en tout cas sur l'UD 69, qui va rejoindre le mouvement parce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller dans la rue. Hein. Pour autant, c'est peut-être pas sur les mêmes idées que la CGT du Rhône. Le tract de l'UD CGT 69 est un peu fourre-tout, mais c'est un peu le problème en ce moment, des tracts d'une manière générale, je trouve. Et puis alors, ce rendez-vous à Jean Massé à 11h30, c'est un peu viens manifester pendant ta pause déjeuner. Pardon, mais voilà. C'est pas tellement un mouvement de mobilisation, de grève.
Pourtant,
et puis on va tout péter.
Officiellement, c'est une journée de grève interprofessionnelle.
Oui, mais c'est un peu mou. Alors après, peut-être qu'aussi aujourd'hui, les mouvements syndicaux montrent un peu de spontanéité, c'est-à-dire que finalement, on aurait décidé de descendre dans la rue après le discours de M. Macron à la télé, ça aurait été peut-être plus en colère, plus pertinent, que cette journée qui est quand même prévue déjà depuis quelques temps, enfin depuis le début...
Une dizaine de jours.
Ouais, voilà, on a le temps quand même d'écrire un peu des choses, de s'organiser, donc bon, j'espère que ça sera une réussite, parce qu'il s'agit aussi de montrer à M. Macron qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes, qui sont un mouvement anti-Macron, pour moi, très clairement, avant toute autre chose. Anti-taxe, anti-impôt aussi, bien sûr. C'est aussi un moment d'aller dans la rue, et puis aussi d'accompagner les lycéens, les lycéennes, les étudiants et les étudiantes qui demain aussi, comme aujourd'hui, se donnent encore rendez-vous.
Ouais, même si la mobilisation n'est pas très importante, malheureusement.
Non, aujourd'hui, elle était plus faible. Mais...
Ce matin, moi, j'ai pas vu beaucoup de lycées bloqués. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aurait un vrai moment de mobilisation dans l'éducation, en tout cas. Il y aurait une vraie convergence des luttes entre les lycéens qui rejettent Parcoursup à raison et qui rejettent aussi la réforme, et les enseignants. La réforme, elle va faire sauter des centaines de milliers, des milliers de postes, mais aussi des matières qui disparaissent complètement, de la culture générale scientifique qui saute avec la SVT qui va être prise par personne dans l'option, en option, dans cette fameuse première terminale à option maintenant, puisqu'on va choisir les matières qu'on prend. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont mises de côté, qui sont très critiques dans la loi, et il n'y a pas de mobilisation. Il n'y a pas de vrai enjeu. Et la CGT, comme la CNT, comme les autres, ne se mettent pas d'accord pour lancer un vrai mouvement de fond dans l'éducation, parce que là, il y en aurait vraiment besoin. Et il y aurait une jonction entre les étudiants qui rejettent les frais qui sont multipliés par plus de 10 pour les étrangers, les étudiants étrangers, par les lycéens qui rejettent Parcoursup et la réforme, et par les enseignants et les personnels éducatifs qui rejettent la réforme. Et pourtant, ça part dans tous les sens et il n'y a pas d'unité. Donc voilà, malheureusement, la lutte, elle ne marche pas. Alors, en interprofessionnel, c'est encore plus difficile. Là.
Mais je pense qu'on veut trop aller vers une convergence des luttes. Il faut arrêter avec ce terme et cette idée. On passe trop de temps à essayer de converger. Je pense qu'on ferait juste point d'être dans la rue, que les confédérations qui ont un peu de la force se bougent les fesses. Alors évidemment, la CFDT a passé sa semaine à dire « Oh, 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 on est le premier syndicat de France ». Et bon, arrêtez de vous gosser, déjà, rendez-vous compte du nombre de travailleurs en France qui sont syndiqués. Et puis déjà, on va peut-être plutôt que se dire que c'est malheureux, puis arrêtons d'exulter sur ce genre de choses. Ça vaut pas le coup, ça m'effraie un peu que la CFDT puisse être... Alors tout secteur confondu, parce qu'après, quand on analyse, c'est un peu différent entre la CGT et la CFDT. Hein. Toujours est-il que donc il y a ce mouvement demain, mais il y a d'autres mouvements qui sont en route. Alors justement, par exemple, la BNF, vous savez, la Bibliothèque
nationale de France,
à Paris, qui est toujours en mouvement et en lutte. Et évidemment, demain, sera bien mobilisé, ça on est plutôt content. Mais il y a des mouvements qui se mettent aussi en route, indépendamment de ces fameux gilets jaunes. On apprend par exemple que les organismes de la Sécu, de la Sécurité sociale, vont être en grève le mardi 18 décembre. Et puis on a appris que chez les intermittents, il va y avoir des mouvements de grève. Alors, il y a la CGT Spectacle, pour lequel j'ai pas forcément beaucoup d'amitié, je dois dire, même si... ailleurs qu'à Paris, la CGT fait plein de choses dans la culture, dans les grosses salles. Bah oui, là il y a eu des vrais mouvements de syndicalisation qui ont permis de faire vraiment des avancées sociales. Mais c'est vrai que la CGT Spectacle à la parisienne, quand elle défend les intermittents, on se demande parfois ce qu'elle fait. Et alors là, moi j'en ai discuté avec des intermittents qui n'étaient même pas au courant de cette annonce et qui sont pourtant des gens qui s'intéressent un petit peu quand même à leur statut d'intermittent, j'aime pas trop le dire comme ça parce que c'est réducteur, mais en tout cas le message est encore pas très très bien passé parce que oui, on a l'impression qu'il y a toujours ce phénomène un peu parisien. Alors la CGT Spectacle a donc déposé un préavis de grève illimité à compter du 18 décembre et appelle demain à aller manifester, ça c'est très bien. Et puis la coordination des intermittents est précaire, la CIP IDF a lundi au Théâtre de la Colline à Paris annoncé qu'elle intégrait le mouvement des Gilets jaunes. Alors ça c'est un peu incompréhensible, j'avoue. Pour davantage de justice sociale et fiscale, je les cite, donc on en revient quand même à la fiscalité. C'est vrai qu'il va y avoir des négociations, donc on peut penser que les intermittents ont intérêt à bouger un petit peu avant que ça leur tombe sur le coin du museau. Mais voilà, il y a d'autres mouvements. À Orléans, il va y avoir un mouvement de grève dans les bus et trams à partir du 21 décembre aussi, par exemple. Donc il se passe plein de choses. Et puis il y a des endroits, alors vous avez peut-être où il y a des mouvements un peu qui pouf. C'est la douche froide, c'est Ford qui a refusé l'offre de reprise de Punch. L'usine de Blanquefort va donc fermer. Même le ministre, il a dit qu'il n'était pas content. Ouais. Voilà. Bon, ben n'empêche que voilà, c'est un peu désespérant parce
comme,
que.
Comme quoi, on est ministre de droite et ses amis capitalistes, ils n'obéissent pas. Quoi.
830 pas salariés hein, quand même. Hein, voilà, ouais. Juste pour dire, ça concerne donc pas mal de gens. Et puis, c'est les éditions Le Serpent à Plumes. Vous connaissez peut-être,
oui,
qui avait été repris par le groupe La Martinière. Ça avait été créé en 1988 pour le Serpent à Plumes. C'était à la base d'une revue. C'était Pierre Astier qui avait créé Le Serpent à Plumes. Et puis après, en 93, c'est devenu une maison d'édition. Et en 2014, ça a été repris. Et donc, on a pris une mauvaise nouvelle. C'est que là, ça va passer en cessation d'activité. Ouais, tout simplement. Alors c'est la direction du groupe La Martinière Média Participation qui a décidé ça pour des raisons économiques. Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent pour Le Serpent à Plumes, sauf que effectivement c'est une édition qui disparaît et quid, comme diraient certains, du catalogue. Ouais. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va être réintégré autrement? Est-ce que le catalogue va être poursuivi, maintenu en tout cas correctement? Ça, c'est une question qu'on ne connaît pas. Et il faut savoir qu'il y avait des salariés qui ont débrayé cette semaine devant le siège de La Martinière Le Seuil à Paris pour protester contre des mesures que la direction va mettre en place. Et Le Serpent à Plumes, c'est finalement une conséquence de plus dans cette restructuration assez compliquée. Donc voilà, il se passe plein de choses. D'ailleurs, tiens, c'est marrant parce que Le Serpent à Plumes avait publié Nick Cave, on en parlait tout à l'heure. Voilà, mais Albert Londres aussi. Enfin, bon,
ouais, moi j'ai les Albert Londres publiés par Le Serpent à Plumes.
Voilà. Donc et ça avait été repris en 2017 par La Martinière, ce qui veut dire que La Martinière, le groupe, a décidé de...
Ouais.
Ça veut dire couper direct. Ouais. Voilà, donc c'est un peu toujours tristoun, moi je trouve, quand des éditions disparaissent. Et puis je vais poursuivre un peu sur la même idée de ce qui se passe un petit peu au niveau social, c'est chez France Télévisions. Ou à France Télévisions. Il faudra me dire là, quelle est la faute de français que je suis en train de faire. Vous savez qu'il y a une chef qui s'appelle Madame Ernotte, Delphine de son petit prénom, qui avait annoncé en juin dernier qu'il va y avoir une grande réforme de l'audiovisuel. Enfin, elle avait annoncé avec à l'époque la ministre en place. Et on en sait un peu plus puisque hier, la présidente de France Télévisions a annoncé qu'il allait y avoir un nouveau plan social. Alors la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec notre ami syndicaliste de la CGT, on a parlé d'un nouveau processus inventé par M. Macron.
Ouais, qui était en place, donc là, à Sanofi.
Voilà, la rupture
conventionnelle
collective.
Et
bien c'est ce qui va se passer à France Télévisions. Ah, que ça va être beau. Alors non, c'est pas bien plus, hein. Je vous avoue que on ne connaît pas encore les détails de cette affaire. C'est une annonce qui a été faite hier au syndicat. Mais alors, pourquoi donc ce plan? Ce plan, c'est parce que d'abord, on demande à l'audiovisuel public de faire des économies et que c'est d'abord France Télévisions qui va devoir faire couic-couic. Je vous rappelle qu'il y a deux télévisions qui doivent sauter, France O et France 4, que je me trompe pas, c'est ça. Oui. France 4 va rester a priori sur le numérique. Quant à France O, je vous rappelle que c'est la télévision des Outre-mer.
Ouais.
Voilà, il paraît qu'il va y avoir plus d'Outre-mer dans France 2 et France 3.
Voilà,
on y croit grave.
Voilà, comme la marmotte de chocolat, quoi.
Ah, exactement, tout ça, ça marche tout bien. Donc là, il s'agit de faire un grand plan de transformation. Hein, c'est le terme que Madame Ernotte emploie beaucoup. Il faut transformer. Pourquoi il faut transformer? Parce qu'il y a la concurrence du fameux Netflix. Hein, on met tout sur Netflix maintenant. Ouais. C'est la cause et la conséquence. Et qu'il faut donc changer la donne. Et que en fait, à France Télévisions, a priori, il y a trop de vieux. Donc l'idée, c'est que dans ce plan de départ volontaire, dans cette rupture conventionnelle collective, ce soit les vieux qui s'en aillent pour rajeunir les salariés de France Télévisions. Sérieux, c'est ça l'idée quand même. C'est-à-dire que, mesdames et messieurs, vous êtes trop vieux. Hein, il paraît que la moyenne d'âge à France Télévisions est trop vieille. Donc il faut virer les vieux. Hein. Donc c'est marrant parce qu'ils sont censés volontairement s'en aller. Et donc soit ils s'en vont parce qu'on est en train de les harceler pour qu'ils s'en aillent, soit de même, ils vont s'en aller alors que pour trouver du boulot, quand t'as 55 ans, à mon avis, dans l'audiovisuel, c'est pas gagné. Mais je dis ça comme ça. Peut-être qu'ils peuvent aller dans la pharmacie ou la chimie, je sais pas, on en discutait la semaine dernière. Alors il paraît que l'âge moyen est de 49 ans et que. C'est pas bien.
Ah oui, parce que plus on est vieux, plus on est bien payé. Et du coup, ça permet de faire pas mal d'économies, d'embaucher des petits jeunes.
C'est une des
pas
raisons
chers.
Que moi j'allais finalement amener, qui n'est absolument pas du tout amenée par Madame Ernotte. Ça coûte, c'est bien. Alors évidemment, plus les gens sont âgés, plus ça fait longtemps aussi pour un certain nombre qui sont depuis longtemps dans France Télévisions. Donc on sait que c'est encore un plan qui va coûter très cher, hein, comme en les deux plus, derniers. Ouais. Hein, parce qu'il y en a déjà eu deux, hein, des plans à France Télévisions. Donc ça va coûter assez cher, il faut bien le dire. Mais l'idée aussi, c'est donc de rajeunir ses effectifs. C'est quoi l'idée? En fait, donc de se faire des télévisions France 2, France 3. Des radios de France 5, hein, que j'oublie, des radios de jeunes, c'est ça, des télévisions de jeunes, excusez-moi. Et ben oui, parce qu'en fait, il paraît que les jeunes, ils vont plus que sur les trucs numériques et que donc il faut rendre tout numérique. Je fais des grands moulinets avec moi. Et que, en fait, ils sont trop sur les plateformes avec leur smartphone, hein, leur téléphone intelligent, tout ça. Et que leur mobile multifonction, veuillez m'excuser. Et que, en fait, il faut les ramener devant la télé. Alors peut-être qu'ils utiliseront leur mobile multifonction, mais peut-être qu'ils vont se remettre à regarder les chaînes de France Télévisions parce qu'à l'intérieur, les salariés seront jeunes. Je ne sais pas si vous voyez la logique tordue quand même.
Ouais.
Que parce que tu es jeune, tu l'as dans ta tête. Et que donc, du coup, t'es meilleur en numérique. Et que donc, on va pousser les gens dehors pour, en fait, en réintégrer les neufs. Parce que alors, l'idée, a priori, d'après le délégué central de la CGT, le délégué syndical de la CGT qui s'appelle, en fait, Marc Chauvelot, si je me gourre pas de son nom, il pense qu'en fait, donc l'idée, c'est de virer des gens, 2000, et d'en réembaucher 1000.
Ouais,
mais que des jeunes.
Voilà, donc moins bien payé et deux fois moins.
Donc toi qui t'as adressé à Monsieur Macron et qui t'a invité à juste traverser la rue pour aller chercher du boulot, sache qu'à France Télévisions, tu peux aller avec ta petite pancarte et dire « Moi, je suis jeune et je veux bien remplacer les vieux ». Parce que c'est un peu l'idée quand même de ce plan, qui encore une fois va certainement coûter très très cher. Hein. La Cour des comptes avait fait des calculs sur les deux derniers plans et avait estimé que mettre les gens dehors comme ça, l'air de rien, c'était quand même des millions. Tant mieux si les gens partent avec un bon plan, hein, quand même, et ça, on l'espère. Mais dans le cadre des économies et la synergie John, c'est un plan assez curieux.
Alors, on va parler un peu de nucléaire maintenant avec différentes infos. On va revenir sur ce que le gouvernement a fait avec son fameux cette fameuse proposition sur l'avenir de l'énergie en France, ce pseudo-rééquilibrage du mix électrique comme ils l'ont annoncé. Alors, ça a été qualifié d'excellente nouvelle. Alors, vous allez me dire par qui? Par des écolos? Non. Par Jean-Bernard Lévy, qui est le patron d'EDF. Bon, là, on a compris. Si Jean-Bernard Lévy annonce que les propositions du gouvernement sont une excellente nouvelle, ça veut dire que le nucléaire est sauvé. C'est bien ça dont il est question. Et effectivement, c'est ça dont il est question dans ce qu'a annoncé M. Emmanuel Macron le 27 novembre dernier. Du coup, ça rassure un peu tout le monde. Alors certes, il y a quand même la fermeture de Fessenheim, cette très vieille centrale qui est confirmée pour 2020. Certes, on ferme enfin les deux centrales à charbon, celle du Havre et celle qui est près de Nantes. Mais tout le reste va bien. Oh oui, puisque il va y avoir simplement 12 réacteurs nucléaires qui fermeront entre 2027-2035, mais c'est ceux qui sont vraiment au bout du rouleau, et c'est exactement à quelques mois près ce que EDF avait préconisé. Donc EDF voulait fermer ses réacteurs à cette époque-là, donc le gouvernement dit « Oh, on va fermer 12 réacteurs à cette époque-là ». Donc on sent bien la connivence du gouvernement et de l'entreprise EDF. En échange, bien sûr, l'électricien pourra prolonger ses réacteurs jusqu'à 50, 60 ans et jusqu'à l'explosion, peut-être un jour, et garder donc le rythme qui était prévu par EDF sur les remises en état, et parce qu'il y a quand même des remises en état, et les fermetures, puisqu'EDF a prévu d'investir 4,2 milliards pour le fameux grand carénage, c'est les améliorations post-Fukushima. Chaque fois qu'il y a un accident nucléaire, on améliore la sécurité des centrales nucléaires, alors qu'on aurait pu y penser dès le début, mais non, on attend chaque fois un accident pour améliorer les choses. Voilà, après, la plus grosse problématique reste l'EPR. Et là, c'est moins positif dans ce qu'a présenté Macron et ses amis, parce que la montée des renouvelables, qui est annoncée dans le prévisionnel, hypothèque pas mal l'avenir de l'EPR, des nouvelles centrales, parce que l'énergie électrique fournie et fabriquée par les EPR est plus chère, et le renouvelable moins cher. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, pour l'instant, EDF n'a pas tout sauvé sur long terme dans ce qui a été proposé par le gouvernement, mais c'est quand même plutôt positif, et c'est pour ça qu'il s'est exprimé comme ça, M. Jean-Bernard Lévy. Mais alors, pendant ce temps, il y a quand même des gens qui résistent, enfin qui essayent, mais on ne les voit pas. Puisque la semaine dernière, dimanche dernier, il y avait un rassemblement, manifestation, concert des antinucléaires devant Fessenheim. Alors bien évidemment, la police était là, elle a empêché l'installation là où c'était prévu. Bon, ils ont été obligés de se décaler. Il y a eu un concert avec moitié de Français, moitié d'Allemands, parce que si ça pète, l'Allemagne est à côté. Ils étaient entre 400 et 500 personnes à un seul endroit, à Fessenheim, et aucun média n'en a parlé. C'est intéressant, parce qu'on a vu des reportages sur des ronds-points bloqués par 15 gilets jaunes, et rien sur les 500 personnes réunies à Fessenheim. Voilà, les médias dominants avaient fait des choix, ils font des choix en permanence, et vraisemblablement, ils font pas des choix du côté de la lutte anti-nucléaire. Toujours sur le nucléaire, on va parler de la centrale de Golfech, qui, je sais pas si vous en souvenez, le 19 octobre 2016, avait relâché pendant 2 minutes plein de gaz radioactif dans l'atmosphère. Et, alors c'est EDF qui gère la centrale, et EDF n'avait rien dit. Il avait fallu attendre 5 jours pour qu'EDF dise « J'espère que pendant 4 jours, vous n'avez pas mangé de champignons, vous n'avez pas respiré, vous n'avez pas... » Parce qu'on a balancé une grosse dose de radioactivité dans l'air. Alors ça ne dure que 2 minutes, mais c'est quand même 136 milliards de becquerels relâchés dans la nature. Alors ça ne nous parle pas forcément les becquerels comme ça, mais c'est pas négligeable du tout. Du coup, des associations avaient déposé plainte. Alors il y a eu plusieurs étapes. Le 17 octobre 2017... pas mal d'assauts, dont Sortir du Nucléaire, France Nature Environnement et d'autres écolos, s'étaient constitués partie civile et déposé plainte devant le tribunal correctionnel de Montauban, donc contre EDF. Et ils avaient été... alors, celle-là, elle a marché. Ça a marché. Par contre, celle d'avant, parce qu'ils avaient déjà posé une plainte avant, juste après d'ailleurs, le 19 octobre, là, ils s'étaient fait retoquer par la justice. Donc, comme quoi, il faut insister. La première fois, ça ne marche pas. La deuxième fois, il y a une enquête. Et ça s'est ouvert aujourd'hui au tribunal, donc à Montauban. Et on n'a pas la réponse encore, mais on aura la réponse, savoir si EDF sera condamné ou pas. Bon, ils seront condamnés à faire un mea culpa, parce qu'on n'imagine pas qu'EDF va avoir une vraie amende pour avoir des trucs balancés X milliards de becquerels dans la nature et peut-être que donner le cancer à une ou deux personnes. Ça, bien sûr que non, EDF n'a jamais été condamné pour avoir donné le cancer à qui que ce soit. On rappelle que EDF et les gestionnaires centrales nucléaires en France avec EDF, ils ont l'autorisation de rejeter de la radioactivité, sauf qu'il y a des doses. Hein, et on... Voilà, je nous souhaite pas, bien sûr, d'ingurgiter une particule radioactive, parce que nous serions mal, mais ça arrive sûrement, vu ce qu'ils rejettent, à quelques personnes. Et comme Lyon n'est pas très loin du budget, ça pourrait nous arriver, ou ça a pu déjà arriver, mais bien sûr, on ne le sait pas. Alors, on va faire un tout petit point. Alors, je vais aller assez brièvement, puisqu'il y a un très bon article sur Reporter, le site internet, sur la gestion typiquement française des déchets nucléaires. Alors, je vais juste résumer pour vous donner l'envie d'aller lire, on en a déjà parlé plusieurs fois, sur cette anomalie internationale qu'est l'idée française de recycler, je mets des guillemets, le combustible nucléaire, puisqu'on ne sait pas recycler le combustible nucléaire, on sait juste séparer les différents quelques éléments qu'il y a dedans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est un des derniers pays à faire ça. Tous les autres ont abandonné. Alors ça se fait, vous le savez tous, à La Hague, site ô combien célèbre en France, depuis 1966. Avec des procédés particulièrement polluants et très complexes qui consistent à traiter ces fameux c'est des cylindres d'uranium, là, des crayons d'uranium qui ont été dans le cœur des centrales nucléaires, qui ont été bombardés par les neutrons et qui contiennent donc les matières fissibles issues de la fission de l'atome d'uranium. On retrouve du plutonium et plein d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent avec des bains d'acide, des solvants, des produits ultra-chimiques, c'est ultra-complexe, ultra-dangereux. Tout ça pour, d'un côté, mettre du plutonium et puis essayer de mettre autre chose d'un autre côté. Grosso modo, de séparer les déchets à haute activité. Après, on les vitrifie et on les met dans un verre, donc vitrifié, dans un verre spécial qui est garanti 150 ans. Alors que le déchet est dangereux pendant 150 000 ans. Ça, c'est un autre problème. Ils n'ont pas tout réglé à Areva, puisque c'est Areva qui gère La Hague. Alors maintenant, ça a changé de nom, bien évidemment. Moi, je suis resté à l'ancien nom. Enfin, au nom précédent, parce que ça a changé de nom plein de fois. Voilà. Alors, dans l'idée aussi, quand on a construit ça, c'était pour récupérer du plutonium. Parce que là, je vous rappelle que la France a fait sa première pile nucléaire. On appelait ça pas une centrale au début. Pas pour faire du plutonium, pour pouvoir faire des bombes atomiques. Hein, parce que le but, c'était pas de faire de l'électricité, c'était de faire des bombes pour tuer des gens, en cas de guerre, hein, dirons-nous. Et puis aussi de faire péter des bombes dans le désert, ou dans les îles lointaines des colonies françaises. Mais la question qui se pose, c'est, ok, à une époque, il y a eu une justification militaire, tout ça. Aujourd'hui, pourquoi la France continue avec cette catastrophe qu'est le retraitement entre guillemets des déchets nucléaires, puisque ça coûte de l'énergie, c'est pas rentable. Alors ils ont une petite excuse, ils créent un truc qui s'appelle le MOX. Donc le MOX, c'est on récupère du plutonium, on le remélange à de l'uranium appauvri et on essaie d'en faire un nouveau combustible. Alors l'idée, c'était de brûler ça dans des centrales nucléaires. Alors il y a quelques centrales nucléaires en France qui brûlent 20 à 30% de ce MOX. Ensuite, la barre est carrément intraitable tellement que c'est compliqué, mais c'est plus dangereux à gérer. Il y a quelques pays, l'Allemagne a je crois 4 centrales qui fonctionnent en partie au MOX, enfin bon, de toute façon ils vont arrêter le nucléaire, donc du coup ils n'en auront plus besoin. Bref, la France, avec ce choix là est encore rentrée dans un truc qu'il n'y a que la France qui fait, il n'y a plus que la France qui fait. Il y a eu aussi l'idée au départ de faire des surgénérateurs, vous savez, c'est le truc qu'on avait à Crémalville là, qui a failli exploser moult fois avec des fuites incontrôlées et incontrôlables. Mais ça, tout le monde a abandonné. Ça n'existe plus, même la France, vous n'avez qu'à voir. Donc bref, toute l'enquête, elle est très détaillée, repose la question de pourquoi la France est le dernier pays à retraiter comme ça ses déchets. Alors, le dernier pays européen, en tout cas, à retraiter ses déchets nucléaires, plutôt que de les entasser bêtement et de les stocker comme ça. Parce que ça revient un peu au même, on dépense de l'énergie pour rien, on a des piscines qui attendent, avec des lieux potentiellement sensibles face à un attentat par exemple. Donc voilà, c'est l'éternelle question des déchets nucléaires qui est reposée par cet excellent article-là. Et alors pour continuer dans le nucléaire, alors c'est un peu la suite de ce que Macron a annoncé, ce coup-ci c'est l'ADEME, l'Agence de Développement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui nous fait un rapport sur, justement, c'était, le but c'était d'influencer Macron. Ça a a priori pas tant servi que ça. Ils se sont posé des questions sur le nucléaire simplement d'un point de vue économique. Qu'est-ce qui était le plus rentable économiquement en France pour les 50 prochaines années ? Ils ne se sont pas posé des questions environnementales, des questions de dangerosité, tout ça, parce que dans ces cas-là, le nucléaire, on le jette tout de suite du jour au lendemain. Non, ils se sont posé des questions économiques. Alors c'est pareil, il y a un gros rapport qui explique plein de choses. Eux, ce qu'ils disent, c'est que... alors, le plus rentable, c'est ce que propose EDF actuellement, c'est de prolonger les centrales nucléaires. Ils disent, c'est logique, l'outil industriel est amorti. Économiquement, l'électricité qui est produite est à un coût relativement faible. Il faut dire que les trois quarts ont été financés par de l'argent public, etc. C'était une autre époque. Donc là, ils sont en raccord avec EDF. Par contre, ils sont en raccord plus avec ce qu'a laissé entendre le gouvernement, c'est que par contre, l'EPR, c'est pas du tout rentable économiquement. L'EPR, l'électricité coûte beaucoup trop cher, donc il n'y a aucun intérêt. Alors voilà, il y a tout un détail sur ce que fait l'ADEME. L'ADEME, c'est un groupe plutôt sérieux, c'est une agence publique. Donc c'est pas, voilà, c'est pas des rigolos, des écolos intégristes, tout ce qu'on pourrait imaginer. Mais ils sont placés du point de vue purement économique, donc c'est intéressant. Puisqu'ils arrivent à la conclusion que oui, on peut continuer économiquement les centrales, mais il faut arrêter d'en construire parce qu'il n'y a aucun intérêt et aucun avenir là-dedans. Donc c'est intéressant de voir ça. Après, ils ont d'autres rapports qui disent qu'il faut arrêter totalement le nucléaire, mais quand ils se positionnent du point de vue de la sécurité, du point de vue de plein d'autres choses, bien évidemment, mais c'était voilà pour souligner un petit peu ce que pouvait dire l'ADEME sur la partie juste économique, si on raisonne en économie pure. Mais on a le droit de ne pas raisonner en économie pure parce que sinon, on va dans le mur. Et puis, alors, tu as parlé de la radio numérique, je vais juste revenir un truc parce que c'est de retour. Alors tous les 10 ans, on a la radio numérique qui essaye de percer en France. Alors il y a des pays où ça a plus ou moins percé, ils ont 20-25%, peut-être 30% des parts d'audience. Donc l'idée, c'est de transformer le signal FM qu'on a. FM, ça veut dire modulation de fréquence, donc c'est une onde porteuse d'un signal analogique, donc c'est-à-dire une sinusoïde avec le son. Ça, c'est has-been. L'analogique, c'est has-been. Il faut arrêter, enfin, d'après les technocrates et les politiques. Et donc, ils essayent de mettre en place la radio numérique. Donc, on transporte toujours avec des ondes, mais cette fois, on transporte des 0 et des 1. Et après, on recrée le signal numérique, qui est donc une simple approximation du signal analogique de départ. Donc, quoi qu'on en dise, le numérique restera toujours inférieur en qualité à un signal analogique. Puisque tout est analogique dans la vie. Et là, donc, ça y est, à Lyon, c'est reparti depuis aujourd'hui. Ouah ! On émet en numérique. Alors, pas Radio Canu, hein, parce que c'est pour les riches, mais il y a à nouveau quelques émissions. Donc, ça s'appelle le DAB+. Alors, la norme a changé X fois au fur et à mesure des aléas, des tentatives de démarrage de la radio numérique. Et donc, Lyon, Marseille, Paris, voilà, petit à petit, l'État met en œuvre à travers quelques radios, hein, très très peu, bien sûr, les radios publiques, ces nouvelles radios numériques, alors avec toute la propagande qui va avec, en nous disant c'est une radio de meilleure qualité, ce qui n'est pas vrai, notamment dans les zones de mauvaise réception. Quand vous écoutez chez vous, si vous habitez par exemple sur les pentes de l'Ocraus, où il y a plein de zones d'ombre sur les ondes hertziennes, en analogique, vous avez des craquements. Alors des fois, le signal, il n'est pas très bon, mais vous entendez quelque chose. En numérique, ça ne marche pas. En numérique, quand la réception est mauvaise, le signal n'arrive pas à se reconstituer. Du coup, vous avez un bruit numérique qui ne permet pas de comprendre ce qui s'est dit. Donc en fait, quand le signal ne passe pas bien, vaut mieux être en analogique qu'en numérique. Mais là, ils nous font comprendre le contraire. En fait, c'est surtout adapté aux bagnoles, il faut savoir, puisque ça permettra, quand vous êtes sur l'autoroute à fond dans votre Porsche, là, ou même dans votre Twingo, alors, pas à la même vitesse, enfin si, peut-être à la même vitesse, quand vous allez changer de région, si vous écoutez Radio Canu, et quand vous passez dans la Loire, ça passera sur Radio Canu de la Loire. Hein, ça enchaîne les fréquences. Alors ça ne marche pas avec Radio Canu puisqu'on n'existe qu'à Lyon. Mais voilà, voilà, y a le petit truc automatique. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Ah si, il y en a un deuxième, c'est de faire vendre des appareils puisque il faut racheter un récepteur. C'est plus du tout la même technologie. Alors, ils ont espoir sur deux choses. C'est que, un, ça va être rendu obligatoire dès que 20% de la population aura accès à la radio numérique. Il y a l'obligation d'installer dans tous les nouveaux systèmes de la radio numérique, notamment dans les autoradios, dans les bagnoles. Et c'est là où ils espèrent gagner, c'est que à travers les voitures, parce que c'est là où les gens écoutent beaucoup la radio, en parallèle du matin au petit déjeuner, c'est de faire basculer la technologie avec le renouvellement des voitures. Et ils nous annoncent aussi toujours le même avantage, il y aura un écran, vous pourrez avoir de la pub, non, ils disent pas ça, vous pourrez avoir la photo de l'album que vous êtes en train d'écouter, tout ça, en fait, vous pourrez avoir de la pub, en fait, vous aurez un écran, vous, en fait, c'est la télé, quoi. Hein, voilà, ça y est, bon, bref, c'est une belle arnaque. Jusqu'à maintenant, Radio Canut s'était toujours opposé. Je sais pas ce que on va faire la radio officiellement. Parce que, en plus, financièrement, c'était catastrophique pour les petites structures associatives. Et puis, on le rappelle, l'analogique reste bien de meilleure qualité que, plus de, voilà, que le numérique.
Alors, il me reste quelques minutes pour vous parler d'un ouvrage. Je vais vous parler de l'ouvrage de Hazem Hilmi qui s'appelle « Le 33e mariage de Donia Noor ». Alors, c'est un ouvrage étrange. D'abord parce que Hazem Hilmi, on ne sait pas qui c'est, sauf ce qui est inscrit sur la quatrième de couverture de l'édition française. Hazem Hilmi est un pseudonyme, d'accord. L'auteur est un neuroscientifique égyptien. Il est né au Caire, ville où il a vécu jusqu'en 2014. Il vit et travaille maintenant à l'étranger. Le 33e mariage de Donia Noor est son premier roman. Voilà. On n'en sait pas plus. Ce qu'on sait, c'est que l'ouvrage est traduit, l'ouvrage de l'édition française est traduit de l'allemand. Mais l'ouvrage a été écrit en anglais et il est d'abord paru en auto-édition avant d'être finalement édité ici en France chez De Noël.
Donc il n'a pas écrit en égyptien, enfin en arabe
ou... est-ce que d'abord c'est parce qu'il l'a voulu en égyptien ou en arabe, en tout cas est-ce qu'il a voulu faire une auto-édition qui vit à l'étranger pour le publier, il s'est dit que c'était plus pratique en anglais.
Parce que peut-être il maîtrise parfaitement l'anglais et qu'il a écrit en anglais directement.
Et c'est pas parce qu'il est né au Caire et qu'il a vécu au Caire que lui-même est égyptien sur son passeport. Je n'en sais strictement rien.
Oui, en fait, on n'a pas d'infos.
Et voilà, et c'est là où on peut imaginer tout plein de choses sur cet auteur, ce personnage presque finalement. C'est ça aussi que ça peut casser des barrières et des frontières. Je trouve ça assez intéressant, mais assez étrange. Alors, que raconte cet ouvrage qui est sorti cet été en France. Ça se passe en Égypte, nous sommes en 2048 et l'ouvrage va s'intéresser évidemment à Donia Noor, cette femme, jeune femme, une héroïne, comme personnage principal, mais aussi à Ostaz qui lui est un philosophe plutôt tendance athée rationaliste, qui est en 1952 enlevé par des extraterrestres. Parce que oui, cet ouvrage mélange plusieurs choses.
C'est de l'anticipation et de la science-fiction.
Alors,
il y a un peu les deux là, j'ai l'impression.
C'est de la science-fiction. Évidemment, Hazem Hilmi va nous proposer une lecture particulière de cette Égypte à travers, on sent bien, un œil de des révolutions arabes et un petit peu de ce qui a pu se passer en Égypte ces dernières années. On a donc Donia Noor qui, évidemment, vit dans un pays qui est une théocratie où se mélangent à la fois la religion et la consommation. C'est le Nazem qui dirige tout et l'Égypte est partagée en trois secteurs. Au nord, les riches, avec une frontière. Au milieu, ça vous étonnera pas trop, la classe moyenne. Et au sud, les esclaves qui sont vraiment parqués dans ce sud de l'Égypte. Et Donia Noor, elle vit dans une petite vie basée sur la prière et la consommation dans cette Égypte moyenne. À faire un boulot qui l'intéresse pas trop, avec un père extrêmement pratiquant et croyant, mais qui va même au-delà. Alors évidemment, là, Hazem Hilmi nous parle de l'islam, très clairement.
Oui, parce que dans son roman d'anticipation, l'islam est toujours la religion dominante.
Alors en 2048, et c'est effectivement une Égypte qu'on pourrait presque reconnaître hein, dans certaines parties. Hazem Hilmi va nous citer des sourates hein, tout au long de cet ouvrage. Et Donia, elle va effectivement vouloir ce 33e mariage. Pourquoi ? Parce qu'un jour, elle a été violée par un homme qui ensuite va l'amener, la forcer en se servant de sa naïveté et en la violentant, à se marier pour quelques instants. Vous savez que dans certains pays, on peut se marier à l'instant pour avoir une relation sexuelle et divorcer assez rapidement. Évidemment, tout ça au profit des hommes, la plupart du temps. Et contre rémunération, Donia va se marier 32 fois et va espérer ce 33e mariage parce qu'elle a appris, c'est un peu comme la Corée du Nord, il y a des fuites, qu'il y aurait peut-être des possibilités au nord d'avoir un bateau et de peut-être quitter cette Égypte qui est complètement fermée, mais à l'idée vraiment d'une Corée du Nord. Et Donia se dit qu'avec le dernier petit tas d'or qu'elle va obtenir avec un 33e mariage, elle va pouvoir en fait s'enfuir parce qu'elle sent qu'il y a quand même quelque chose ailleurs. Et on se retrouve donc dans cette théocratie où les hommes et les femmes sont parqués. On a un rapport à la lutte de classe, une grosse critique de la religion et de la consommation. Et tout ça se passe avec vraiment une présence de la science-fiction dans le genre littéraire. D'ailleurs, De Noël a choisi de nous faire une couverture entre le désert et les grandes cités, un peu ambiance science-fiction, ce qui n'est pas le cas de d'autres éditions européennes qui ont choisi Donianou, finalement un visage dessiné, voilé. Parce qu'évidemment, on est dans un islam rigoriste, fondamentaliste, intégriste, qui amène les hommes et les femmes à pratiquer la religion et avoir des bons points. Un peu comme quand vous aviez à l'école, si vous êtes un peu vieux.
Un peu comme la Chine, là, du coup.
Alors, oui.
Tous les régimes totalitaires, en fait.
De toute façon, il n'invente rien, Zamilmi. Il ne fait que reprendre aussi ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays. Mais nous propose l'image d'un pays qui, finalement, n'a pas vraiment réussi à se libérer. Alors, il y a aussi une écriture des élections, puisque en fait, il y a un peu un parti unique. Alors, il y a une pseudo-opposition qui n'existe pas vraiment, mais donc il y a une partie du livre qui se passe au moment des élections. Et finalement, si on est un bon pratiquant, une bonne pratiquante, c'est la prière qui amène les bons points, qui permet de bien consommer et de bien voter. On n'a pas trop le choix, de toute manière. Les opposants n'existent pas vraiment. Et Donia va donc à un moment rencontrer cet ostase qui est renvoyé par les extraterrestres qui l'ont enlevé, qui est ramené par les extraterrestres pour étudier cette nouvelle Égypte, là où il était avant. Et qui vont se retrouver face à face parce que les gens qui l'ont embarqué, ostase, lui disent « Il faut que tu trouves Donia parce qu'elle est certainement capable de libérer des choses. » Et comme toujours, vous savez, ce genre de héros, c'est jamais parce qu'ils sont vraiment très volontaires hein, qu'ils vont pouvoir provoquer des catastrophes qui vont peut-être permettre à un moment de se libérer. Et c'est vrai que toute la dernière partie de l'ouvrage est vraiment basée sur de la science-fiction, et d'ailleurs c'est pas la meilleure des parties. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est cette critique aussi de la condition de la femme dans la pratique religieuse aujourd'hui, dans les pays arabes. Comment aujourd'hui on est aussi hypocrite parce qu'on est dans des sociétés patriarcales où la femme va pouvoir être à la fois violée, manipulée dans des mariages, abandonnée, séquestrée sous la condition du père ou du mari, et dans un rapport aussi de la lutte de classe, puisque souvent les femmes subissent encore plus le rapport de la lutte de classe. Et là, Zamilmi, il nous repositionne aussi tout ça avec ces trois parties très marquées dans cette Égypte, avec un sud où il y a des esclaves, et puis des mensonges évidemment sur d'où viennent les productions, la corruption, parce que Zamilmi, il nous parle aussi de ça, mais il nous parle de choses qui sont finalement réelles dans l'Égypte aujourd'hui, dans l'Égypte passée, la corruption, la lutte de classe, la position des femmes, la position de la religion. Et c'est tout ça que nous raconte Zamilmi. Évidemment, il nous met des tyrans, des hommes. Il nous parle aussi de la situation des Coptes, par exemple, qui ont dû se convertir, et même quelque chose qu'on a retrouvé avec les Japonais qui ont envahi la Chine, ou une partie de la Chine et la Corée, c'est l'obligation de changer de nom. Il fallait rendre son prénom japonais en Corée du Sud, et bien là, il faut éviter d'avoir des prénoms et des noms de famille qui sonnent trop chrétiens. C'est tout ça que nous raconte Zamilmi dans le troisième mariage de Donianou, c'est aux éditions de Noël. Je trouve que c'est un ouvrage curieux, qui est certainement pas le meilleur que j'ai lu cette année, mais qui est intéressant parce qu'il mélange des genres, tout en étant un ouvrage de science-fiction, avec des histoires d'extraterrestres, d'analyse, et puis que ça se passe dans le futur, mais en même temps nous ramenant à une réalité aujourd'hui. C'est la place de la religion, la place de la consommation dans nos sociétés, et la place des femmes, et comment aujourd'hui certaines subissent, mais peuvent aussi se libérer.
Et ben voilà, très bien, on va terminer ce qu'est Nuinfo par un petit agenda militant.
Tout à fait.
Nous parlerons d'abord, nous rappellerons demain donc la manifestation à 11h30 syndicale place Jean Massé. Un appel presque unitaire, enfin, au départ de la CGT, puis d'autres syndicats, pas unitaire, non, parce que la CFDT, tout ça, ils n'appellent pas. Mais donc voilà, pour l'augmentation des minima sociaux, contre les réformes de l'éducation, pour la démocratie directe, le truc est tellement large qu'il y a un peu tout et n'importe quoi dedans, mais c'est quand même une belle journée de mobilisation annoncée demain à 11h30, place Jean Massé pour la version lyonnaise. Samedi, on sera le 15 décembre à la Griffe. Vous pourrez discuter autour d'un livre qui s'appelle « Vivre ma vie, une anarchiste au temps des révolutions » de Emma Goldman. Donc en présence de Laure Battier, une des traductrices de l'ouvrage de cette grande anarchiste qu'est Emma Goldman. J'ai noté aussi le 17 décembre, place des Terreaux, le lundi. Alors, c'est devant l'hôtel de ville, mais j'ai l'impression que c'est du côté de la place des Terreaux. Une manifestation contre les violences faites aux travailleurs et aux travailleuses du sexe, et surtout aux travailleuses du sexe. Il y a peut-être dans les violences, d'ailleurs, dans tous les cas. Donc voilà, c'est.
C'est pas d'ailleurs, c'est sûrement.
C'est sûrement, d'ailleurs, oui. Non, mais j'ai pas de chiffres. Du coup, j'imagine des choses que c'est pas facile, et pour tout le monde. Donc voilà, et j'ai oublié d'annoncer un truc là, oui
que samedi, t'as sous les yeux. À la librairie La Plume Noire, ça bouge un petit peu ce week-end. Il y aura une journée pour préparer la manifestation qui va avoir lieu le 18 décembre prochain à 18h.
C'est la journée.
Pour le soutien aux migrants, non aux expulsions, oui à la liberté de circulation et d'installation. Je fais rapide, c'est une journée où à 17h nous pourrons avoir à la Plume Noire un goûter solidaire. À 18h nous pourrons retrouver la chorale du réseau Éducation sans frontières qui s'appelle Les Chants sans papier, avec un petit jeu de mots. Papier, oui, je le fais pas bien. À 19h il y aura un repas à prix libre et à 20h un concert nous est donc annoncé pour cette journée du samedi 15 décembre 2018 à la Plume Noire, qui est donc sur les pentes de la Croix-Rousse, au 8 rue Diderot, j'en bafouille.
Et ben voilà, c'est 20h moins quelques secondes à la pendule de la plus rebelle des radios. On vous laisse en compagnie des bandes continues, puisqu'il n'y a pas d'émission tout de suite. Il faudra attendre une petite heure pour avoir une émission en direct. Mais en attendant, vous avez de la musique et on se retrouve la semaine prochaine.
Ciao, ciao, bonne soirée à vous tous et toutes.
Bye, bye.